Le coup de cœur de la sommelière Sonia Jalbert. Une présentation du restaurant La Crêpe Bretonne de Paquetteville.
Et on va commencer notre chronique de ce matin avec une contestation à Sonia Jalbert. Bonjour, Sonia.
Bonjour, monsieur.
J'avais contesté la couleur de votre vin ce matin. Vous nous dites que vous nous parlez d'un rosé, mais il n'est pas rose.
Ben, il est rose quand même. OK, je vais mettre en contexte. J'ai pris la photo sur un comptoir de bois. Donc, le reflet du bois nous induit en erreur un peu. Mais c'est bien qu'on en parle parce que il y a plusieurs sortes de rosés. Il y a plusieurs dégradations de rosés. Et on a deux grandes méthodes, deux grandes façons de faire le vin rosé. Là, je vous amène à la baie de raisin. Si on prend un raisin et on le coupe en deux, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la pulpe du raisin, l'intérieur du raisin est clair?
Oui, tout à fait.
C'est la couleur, dans le fond, c'est la peau du raisin qui donne la coloration au vin. Donc, si on presse les raisins et on le laisse longtemps en contact avec les peaux, il va devenir plus coloré. Donc, la méthode de faire, dans le fond, c'est la méthode de pressurage direct. Le mot le dit, on presse et on retire le liquide quand même assez rapidement. Et ça prend quelques minutes ou quelques heures, mais c'est même pas des heures, je pense que c'est des minutes.
Mais est-ce qu'on garde la peau quand même, là?
Non, mais on presse le raisin avec la peau, avec les pépins, avec le...
Oui, oui.
Et le contenu de ce jus-là est retiré et mis dans une cuve de fermentation à part.
Donc, il n'y a pas le temps de prendre la couleur de la peau.
Exactement. Et l'autre méthode, c'est la méthode de saigner ou la méthode de macération. Donc, ça, c'est la façon qu'on fait les vins rouges, dans le fond. On laisse plusieurs heures, même des jours, même des semaines, le contact de la peau, du pépin, de tout le raisin, dans le fond, on le presse, mais on laisse tout le jus aussi ensemble.
Donc, il va être plus foncé.
C'est ça, exactement. Donc, le vigneron, dans le fond, il fait du vin rosé avec les mêmes grappes de raisin qu'on ferait du vin rouge. Si on laissait plusieurs heures ou plusieurs jours, plusieurs semaines, ça deviendrait un vin rouge.
Alors, le moins de temps on le laisse, le moins il est foncé, si on veut.
C'est ça. Et souvent, c'est ça, on va voir. Puis, il y a même du vin qu'on appelle dans le nord de la France, dans la région de Savoie, on appelle du vin gris parce que le pressurage, on prend des raisins blancs, des raisins noirs, des raisins pour faire du vin rouge, on le presse et on le retire tout de suite et ça devient, il est tellement rose pâle que c'est gris. Donc, on appelle ça du vin gris. Alors, c'est on n'en a pas au Nouveau-Brunswick, malheureusement, du vin gris, mais vous pouvez voir ça des fois. Ça arrivait à quelques reprises qu'on en avait.
Oh,
bref, là, je vous amène...
Oui, vous nous amenez où?
Je vous amène dans le sud de la France, à Coteaux d'Aix, en Provence, pour avoir été dans cette belle région chaude. C'est très, très chaud. L'été, c'est un climat méditerranéen. On est sur... c'est sec. Et c'est très chaud. Donc, c'est vraiment le fun parce que partout, tout ce qu'on voit sur les terrasses, c'est les gens qui boivent du vin rosé. Parce que les gens, c'est le vin typique dans le coin. Tout le monde en boit, dans le fond. Et c'est vraiment... Je trouve que pour les références de vin rosé, c'est la Provence. C'est le domaine où est-ce qu'on... En tout cas, bref, c'est la place qu'on doit boire du vin rosé sur la planète. Je trouve que c'est là qu'on fait le mieux ce vin-là. Et on est sur le Château Beaulieu. Le Château Beaulieu qui a été fondé en 1576. Mmh. Donc, ça fait plusieurs centaines d'années qu'ils font du vin. Ils font aussi la culture d'amandes, de truffes, de miel. Donc, il y a une biodiversité dans ce domaine-là. Et c'est le plus grand domaine, le Château Beaulieu, qui est de l'appellation d'Aix-en-Provence. Alors, j'ai goûté ce vin-là dans la section expérience. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais goûté une trentaine de vins et que je ne pouvais pas vous en parler la semaine dernière parce qu'il n'était pas encore sorti. Mm-hmm. Mais là, les magasins d'alcool de Nouveau-Brunswick qui ont la section expérience, donc Caraquet, Tracadie et Batters, ont ce bon vin rosé-là. Et on en a goûté 4 rosés, je crois, et c'est de loin le meilleur des 4. par rapport à l'aromatique. Écoutez, c'était tellement aromatique. Lorsqu'ils l'ont versé, on le sentait.
Et ça, ça sentait quoi?
C'est le côté vraiment fruité, floral. C'est très élégant. Puis on est sur une couleur vraiment, comme qu'on l'a mentionné tantôt, vraiment rose, très, très pâle. C'est clair, c'est lumineux. Puis on est vraiment sur des notes de petits fruits rouges. Vous savez, les petites fraises des champs qu'on ramasse, oui. Là, un peu, là, le côté un peu floral, fruité, lorsqu'on se trouve à ramasser des petites fraises des champs. Et le côté floral, la région est enveloppée de champs de lavande. Et je ne sais pas si c'est un effet psychologique.
C'est ce que je suis en train de penser, Sonia. Comment un raisin peut goûter la fraise ou la cerise? Vous voulez ce que je veux dire?
Oui, c'est ça. Puis des fois, les gens confondent. Ils pensent qu'on rajoute des fruits dedans.
Non, c'est mais vraiment non, le c'est raisin, vraiment... là.
Exactement. Donc, c'est une bonne question, Claude, parce que c'est vraiment... les arômes, premièrement, on le perçoit du cépage, de la sorte. Le cépage, en fond, c'est la variété de pied de vigne. C'est la variété de raisin qu'on utilise. Et là, ici, on est sur... du Grenache et du Cabernet Sauvignon, si je ne me trompe pas. Et la façon, dans le fond, la particularité, c'est le cépage, la région, la sorte de sol, etc. Mm-hmm. L'environnement qui est autour va influencer les arômes qu'on va retrouver, mais c'est vraiment au niveau de la fermentation. Lorsque les sucres se changent en alcool, que les experts sont portés à dire que c'est vraiment lorsque c'est en train de se faire que les arômes
se dégagent.
Particuliers se dégagent, mais il y a d'autres arômes qu'on peut ajouter. Par exemple, on peut décider de prendre un vin rouge ou blanc et le faire vieillir en fût de chêne. Donc, on va apporter d'autres arômes de bois dans le vin. On a l'humain a l'influence sur quelques arômes qu'on a dans le vin. Mais d'autres, c'est vraiment de façon naturelle.
Comme un vin qui goûte le café, vous nous le dites des fois, on prend pas ça dans le baril, là, le café. Là, je veux dire, c'est vraiment le dégagement, la chimie.
C'est la chimie qu'on retrouve dans... Il y a certains arômes comme ça de torréfaction, de café, le côté toasté, de pain grillé, de vanille. Ça, on va tout retrouver ça dans la barrique de bois, par exemple. Donc, c'est un bon exemple que vous nous parlez, parce qu'on ne retrouve aucunement d'arôme de café dans ce vin rosé d'aujourd'hui. Mais souvent, je vous parle de ça, oui, évidemment. Mais c'est ça. C'est très complexe.
Oui.
Écoutez, après 4 mois de formation en sommellerie, moi et mes collègues, à un moment donné, ça a duré 6 mois intensifs. Et après 4 mois, on était quand même... On avait appris beaucoup, mais on s'est tous regardés pour dire « Mon Dieu, que c'est complexe!
Ben, » C'est
on
le fun!
C'est juste une petite partie encore. On a tellement à apprendre, c'est ça.
Alors, vous en prenez continuellement sur les vins.
Oui, exactement. Il y a un site pour les passionnés de vins, là, c'est le guildsomme.com que tous les sommeliers se réfèrent pour avoir un abonnement. Là. Et les appellations changent parce que puis les méthodes de vinification changent, donc il faut vraiment toujours rester à jour. Et c'est sur ce site-là, entre autres, que je prends mes informations. Donc, c'est ça. Pour revenir au super bon vin rosé dont je vous parle, qui est le Château Beaulieu de Coteau d'Aix-en-Provence, en bouche, c'est vraiment élégant, c'est frais et riche. Et je m'explique, là, lorsqu'on le prend en bouche, c'est 50% de la dégustation se passe au nez. Et là, lorsqu'on l'a en bouche, c'est droit, mais en même temps, il y a une belle rondeur. On voit que le vin est structuré. C'est suivi d'une fraîcheur et d'une élégance incroyable. Et là, je vais vous parler de fruits exotiques un peu qu'on retrouve en milieu de bouche et d'une minéralité très fine en fin de bouche qui fait une complexité. C'est vraiment élégant. Écoutez, le vin est 25 et 50 et ça vaut le 25 et 50.
Et ça goûte quoi? Excusez-moi, Sonia, ça goûte quoi, la minéralité?
Et là, c'est là où je m'en allais.
Okay.
Souvent, on parle de ça, la minéralité, la fameuse minéralité. Lorsqu'on parle de minéralité dans le vin, parce qu'on en entend souvent parler, je suis certaine que vous avez tous un ami, un moment donné, qui arrive dans les parties puis, ou dans des soirées puis qui dit « Ah oui, j'ai trouvé un vin, il est très minéral. » Puis là, tout le monde ne sait pas trop ce que c'est, mais puis il regarde, puis on fait signe de tête que oui, oui, c'est vrai, c'est minéral.
Oui, minéral au bout, on ne sait pas de quoi il parle. Non, mais est-ce que c'est un peu comme l'eau minérale? Est-ce que ça a rapport?
Non, ça, ben, dans le fond, ça n'a pas vraiment rapport. Lorsqu'on parle de minéralité dans le vin, c'est qu'on a des grandes familles d'arômes. On en a parlé tantôt avec le côté vraiment des grandes familles d'arômes. On va parler de côté fruité, floral, le côté végétal, le côté même boisé. Mm-hmm. Et lorsqu'on ne peut pas classer aucun de ce qu'on sent dans aucune catégorie, on le classe dans le minéral. Par exemple, lorsqu'on sent la pierre à fusil, c'est rare qu'on sent ça, là. Mm-hmm. Lorsqu'on sent un peu le soufre, le côté un peu iodé.
Quand on était jeune, on pétait des pétards, là, des petits pétards, là, puis ça sent.
Exactement. Oui. Vous avez un bon exemple. Et même la craie de tableau, vous savez, lorsqu'on allait sur le tableau et on écrivait sur le tableau avec la craie, des fois, on a ce côté un peu, cette odeur-là dans le vin. Et c'est ce qu'on appelle le côté minéral. Mais écoutez, l'origine de la minéralité, même les experts, les scientifiques n'ont même pas pu trouver de lien direct entre les minéraux du sol et les arômes qu'on retrouve dans le vin.
Donc, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas expliquer, mais on sait que ça se passe.
Exactement, c'est ça que je veux dire. Okay. Mais c'est ça. Donc, c'est influencé par plusieurs facteurs. Dans le fond, ce n'est pas juste influencé par un facteur. Il y a le type de sol, il y a les vignes, la façon qu'ils sont cultivés, la pratique viticole aussi, les conditions climatiques qui font en sorte qu'un vin va peut-être être minéral ou pas. Et la différence, la façon que j'ai trouvé de vous expliquer un peu la fraîcheur de la minéralité versus la fraîcheur de l'acidité, pour vous donner une image, là, si on prend un citron et on le croque dans la bouche, juste le fait d'y penser, je suis sûre qu'il y a des gens qui salivent présentement.
Oui, oui, c'est mon cas.
Oui.
Côté des joues, oui, tout à fait.
Oui, exactement. Donc, on pense à croquer dans un citron, ça nous donne vraiment une fraîcheur qui est vive, qui est immédiate. La minéralité nous donne plus une fraîcheur, une dimension de profondeur puis de persistance en bouche.
Donc, on croquerait dans quoi?
c'est difficile, là. Je ne veux pas vous dire de croquer dans une craie de tableau. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que j'essaie de trouver des mots.
Ou la poudre à canon de fusil. Là. Je sais, c'est pas la poudre à canon. Là.
Ou même, il y a même des fois, vous savez, après la pluie, c'est vraiment
la difficile.
La senteur d'après la pluie. Ah, oui. Sur des roches ou des cailloux mouillés.
Je sais ce que vous dites, là, mon cerveau réagit, je le sens pas, mais je le sais.
C'est ça, c'est une sensation de pureté, de netteté, puis c'est vraiment, c'est ce que ça apporte dans le vin, dans le fond. Ça fait, c'est ça. Bref, c'était pour
c'est
un peu vous démêler.
C'est super intéressant, c'est très intéressant. C'est comme, on n'achète pas une bouteille de vin puis dire, ça goûte ça ou ça goûte ça. Là, on va dire aux gens, hey, celui-là, il est minéral, hein.
Oui, puis c'est ça, vous allez pouvoir un peu parler de...
Avoir l'air intelligent.
Des cailloux mouillés. Ouais, oui, c'est ça. Écoutez, je vais quand même vous parler des accords mets et vins qu'on peut faire
oui,
avec ça.
Oui, il nous reste deux petites minutes.
Parfait. Écoutez, la salade niçoise qui est vraiment particulière, qui est la salade de Nice, qui est un mets typique de la région. Et là, je rappelle aux gens que pour faire des accords mets et vins, c'est vraiment simple. Prenez le vin, regardez de quelle région il est, et prenez le mets typique de la région, parce que les gens font des vins qui s'associent au mets de la région. Par exemple, si on prend un Zinfandel californien, qu'est-ce que les Américains adorent manger? Des burgers,
j'allais dire hot dog, j'étais pas loin.
Ouais, c'est ça, mais tu sais, des choses qui sont quand même assez gras avec la sauce barbecue. Donc, ce vin-là va être bon avec, avec les vins, le mets typique de la région. Un bon pinot noir de Bourgogne va être bon avec un bon bœuf bourguignon.
Un vin italien va être bon avec des pâtes.
Exactement.
Hey, on s'en vient sommelier pas à peu près, là.
Hey, hein, c'est incroyable. c'est un réel plaisir de partager avec
vous.
Ben
oui, c'est le fun de poser des questions parce qu'on est un commun des mortels, mais on connaît pas ça, mais on voudrait tellement connaître ça mais c'est passionnant.
Oui, c'est ça. Alors, salade niçoise, des pâtes, aux tomates séchées. Et si vous voulez gâter maman dimanche, là, puis que vous savez pas trop quoi cuisiner, un mec qui est vraiment pas tellement cher à faire, c'est une quiche aux tomates et légumes. Avec ce beau petit vin rosé, ça serait parfait avec des fines herbes. Puis, ouais, la pâte à tarte, c'est vrai que c'est dur à faire, mais on peut en acheter déjà fait.
On bref. Rappelle, soyons, on n'a plus le temps, le nom du vin, s'il vous plaît.
Le Château Beaulieu, vin de Provence, Coteau-Aix-en-Provence, et c'est dans la partie expérience, c'est seulement Caraquet, Tracadie et Batters qui ont ce bon vin rosé.
Merci beaucoup. On a pris un détour là, ce matin, mais...
Oui, c'est ça que je voulais mentionner, que si vous voulez gâter maman, ben c'est, je pense qu'elle serait gâtée avec ce... Elle serait choyée d'avoir ce beau vin rosé.
Merci, Sonia.
Merci, bonne fête.
Bonne semaine.
Le restaurant La Crêpe Bretonne est situé à Paquetteville depuis plus de 35 ans. La salle à manger est ouverte toute la semaine à partir de 16 h. Au menu, nous avons toujours la table d'hôte 5 services avec le choix de 5 plats principaux. Aussi au menu, des brochettes, des steaks au filet mignon de bœuf et nos excellentes crêpes salées et sucrées. Il est préférable, mais non obligatoire, de faire une réservation. Le restaurant La Crêpe Bretonne, 764-5344.